LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Jean Villemain, où est-ce qu'on est ?
On est au 5 rue de la Liberté, à Épernay, un petit club familial où bah, tout le monde est heureux de se retrouver.
Vous arrivez d'où là ?
Je travaille.
C'est quoi le travail ?
Je suis ouvrier caviste. Ça veut dire que je suis au fond de, dans les caves et puis ben, je remue le vin. Voilà.
L'embauche ce matin, c'était quelle heure ?
Ah ben, j'ai commencé à... Aujourd'hui, c'était tranquille. À 7h, donc ça fait lever à 6h du mat, quand même, tous les jours. Et là, je vais enchaîner les cours jusqu'à 20h30. Hein. Alors là, c'est la boxe éducative. Donc, c'est les petits qui ont entre 6 et 14 ans, garçons et filles, qui sont encadrés par des bénévoles du club. On est tous bénévoles.
Boxe aux origines du noblard. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
Ça va ou ça va pas ? Ça va pas ? Oui. Bah, si ça va pas, alors on continue quand même de travailler. Allez, on est là, de nouveau avec ses mains. On va chercher. Oh, 1.
Vous, votre rencontre avec la boxe, Jérôme Villemain, c'était quand ? La première fois ?
En 1979.
Pourquoi ?
Parce que à l'époque, c'était l'adolescence. Hein. Donc forcément, on veut se mesurer, on veut se protéger. Voilà, donc c'était le moyen de pouvoir au moins mettre des distances.
Vous étiez bagarreur ?
Non, pas trop. Mais par contre, il ne faut pas chercher l'homme. Quoi.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile, Daniel Arondo ? Entrer à l'Académie française où vous siégez depuis 3 ans ou pousser la porte d'une académie de boxe, chose que vous avez fait il y a 18 ans ?
Oh ben, l'Académie de boxe, c'était pas très compliqué.
Vous avez passé un coup de fil ?
Oui, mais je vais vous raconter.
Est-ce que vous vous rappelez le jour où Daniel Rondeau vous a appelé ?
Oui, parce que on venait d'arriver dans cette salle, c'était en 2004, et en fait, j'ai vu qu'il y avait un message, donc j'ai écouté.
Pas de réponse dans les premiers jours. 4 ou 5 jours après, un type m'appelle en me disant « J'ai lu votre message, qu'est-ce que vous voudriez exactement ?» Je lui dis « Je voudrais prendre des leçons de boxe, si possible chez moi, j'habite à 20 km d'Épernay. » Le type m'arrête, il dit « Oui, mais vous savez, la boxe, c'est la salle, et la salle, le rôle de la salle est fondamental, le rôle social de la salle. » Et j'ai dit « Écoutez, je vous arrête tout de suite. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous êtes en train de parler à un associable ?»
Donc là, quand je revois ça, j'ai rigolé. Et puis du coup, il avait donné son adresse.
Et une demi-heure après, il est chez moi.
J'avais même pas fait attention à l'environnement, quoi. Et c'était marrant, parce qu'en fait, il y avait plein de bouquins partout.
Et depuis, il est chez moi toutes les semaines. C'est devenu un ami proche, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. On a fondé un petit boxing club, ça s'appelle Boxing Club de Commercy, c'est le nom de ma ferme. On s'est fait faire des maillots. Mon gendre, mon fils, Romain, mes deux petits garçons qui sont maintenant qui ont 20 ans et 16 ans, mais bon, ils font de la boxe depuis qu'ils ont 8 ans, 7 ans. Et Jérôme, le coach, est toujours là.
Daniel Rondeau a fait de votre relation et de son parcours dans la boxe un livre qui s'appelle Boxing Club, donc c'est le nom de la salle. Vous l'avez lu ?
Oui, quand même.
Ça vous fait quoi de devenir un personnage d'un de ces récits ?
C'est honorifique, mais c'est un peu trop, quoi. Parce que moi, je suis un petit entraîneur de province. Hein. Voilà.
Muraille de livres chez vous, Daniel Rondeau. Mur de livres ici à l'Académie française. J'imagine que peut-être il y a l'Iliade, mais on va pas avoir le temps de la chercher. Vous dites qu'un pugiliste apparaît dans l'Iliade. Est-ce que vous pouvez me lire la suite ?
Un pugiliste apparaît déjà dans l'Iliade. Il s'agit de Pollux, l'un des Dioscures. Son frère Castor est connu, lui, comme le dompteur de chevaux. Enlevé de la terre avant le siège de Troie, immortel, les Dioscures apparaissent parfois aux hommes. Le premier pugiliste est un dieu. Homère décrit, toujours dans l'Iliade, Un affrontement pendant le siège de Troie, et Épéios déclare « D'un coup direct, je lui fendrai la peau, je lui broierai les os. Que ses amis se tiennent donc tous là pour l'emmener quand mes bras l'auront vaincu. » Mike Tyson semble faire écho à Épéios quand il déclare « J'essaie de frapper mon adversaire sur l'arête du nez parce que j'essaie de lui enfoncer l'os dans le cerveau. »
Donc Homer, Mike Tyson, Daniel Rondo. Est-ce que vous avez voulu aussi vous inscrire dans une histoire de la boxe? Jean-Manuel Rubino, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « À point fermé, une histoire de la boxe antique ». Les historiens travaillent sur des documents. Vous avez travaillé sur des vases.
Alors, entre les années 600 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ à peu près, les Grecs, notamment de Grèce continentale, ont produit beaucoup de vases, dont certains étaient décorés de scènes athlétiques. Et sont parvenus jusqu'à nous environ 500 vases sur lesquels on peut observer des scènes de boxe. Et sur ces scènes, eh bien, on peut voir beaucoup de choses, à la fois le matériel des boxeurs, c'est-à-dire le type de gants qu'ils portent à ce moment-là, donc entre environ 600 et environ 300. On peut voir le comportement des boxeurs, leur gestuelle, on peut voir leur anatomie, leur morphotype, on peut voir aussi des éléments de stratégie de la boxe, le comportement des arbitres aussi, par rapport aux gestes autorisés et aux gestes interdits. Autrement dit, ces scènes sur vase sont pour nous en fait une mine d'informations sur le pugilat et son cadre matériel et je dirais le répertoire de ses gestes. Les gants tels qu'ils apparaissent pour nous dans les premières inscriptions qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ sont des lanières qui enserrent le poing, les doigts, les phalanges, le poignet, donc une longue lanière de cuir pour chacun des deux poings qui fait entre 2 et 4 mètres de long. Donc ça c'est la première forme des gants qui va en fait prospérer jusqu'au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, ces gants vont devenir plus lourds, plus massifs. Et on va rajouter en fait à l'avant du poing une grosse pièce de cuir très épaisse que les Grecs appellent strophion, une forme de cercle de cuir si vous voulez, qui est vraiment sur la première phalange et qui permettait donc de protéger beaucoup mieux l'avant du poing et donc de frapper plus lourdement en risquant beaucoup moins de se briser un os de la main. Donc ça c'est la deuxième phase du gant, donc il y a une forme de massification des gants à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et puis il y a encore une autre mutation qui survient un petit peu plus tard, on va dire au tournant de l'ère chrétienne, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, où là, les gants vont, en tout cas certains des gants, vont être augmentés avec des éléments métalliques, alors des ergots parfois, et on en parlait tout à l'heure, mais aussi des coques en métal qui couvrent l'avant du poing, mais aussi des plaques en débordement du poing. Et donc on a une série d'éléments métalliques qui peuvent être ajoutés sur les gants, probablement sous l'influence de la gladiature, qui est à ce moment-là très populaire dans l'Empire romain.
Jean-Manuel Rubino, revenons sur le détail des vases. On dirait un petit film quand le vase se tourne.
Celle qui nous intéresse ici, c'est un boxeur qui s'enfuit, précisément parce que la lâcheté est le principal reproche qu'on peut faire à un boxeur. Un boxeur qui tourne le dos, un boxeur qui s'enfuit, c'est un boxeur dont on se moque. Sur le vase dont vous parlez, eh bien, on voit un jeune boxeur qui a le nez ensanglanté, qui quitte la scène, qui part vers la droite de la scène, à toutes jambes, qui s'enfuit. Et derrière lui, on voit son adversaire qui a le même âge, lui aussi, les mains gantées, et qui le poursuit, qui s'apprête à le frapper. Et donc, les deux petits athlètes qui sont figurés sur cette scène sont séparés par trois légendes. Une première légende qui dit Diocai, il poursuit. Une deuxième légende qui dit Pucta, il boxe. Et une troisième légende qui dit Fegei, il s'enfuit. Et donc l'image, en fait, a une vocation comique. Elle vise à figurer pour celui qui l'observe une scène où le combat de boxe se déroule particulièrement mal pour l'un des protagonistes qui perd le contrôle de soi et qui en vient à s'enfuir de la scène.
Des coupes, des drapeaux, des gants de boxe évidemment,
oui.
Des poids et des bandes.
Oui, et le tabouret. Vas-y, assieds-toi. Les pros, il y en a plusieurs au sein même du club, ils viennent et tous les soirs, c'est moi qui leur mets leur bande. Les amateurs, je ne le fais pas, mais avec les pros ou les amateurs, quand on va en compétition, c'est moi qui leur fais leur bandage.
Alors, ce moment de bandage. Qu'est-ce qui se passe entre l'entraîneur et le boxeur?
Ben, c'est là où on se pose des questions. Ça va, ça a été ta journée? Ça va ta journée? T'es bien là?
Expliquez, parce que là qu'on est à la radio, donc là vous venez de glisser la première bandelette entre le pouce,
juste pour pouvoir maintenir le poignet. Donc on fait 3 tours, et puis on descend, et on va venir cacher la tête des métacarpes. Ensuite, on va croiser à l'intérieur pour avoir un maintien de la main qui va faire que ça va être beaucoup plus solide. L'objectif étant de préparer sa main aux impacts. Donc, ne pas avoir de difficultés pour pas se blesser, quoi.
Est-ce qu'il y a des bandes plus ou moins dures?
Alors, là, c'est des bandes, par exemple, là, c'est des bandes amateurs, d'accord? Ouais. Alors, ferme le poing. Comment tu sens? Tu te sens maintenu ou pas? Donc, avec ça, normalement, tu es capable de travailler dur au sac, avec tes gants.
Alors, là, on va juste travailler...
Le sac de la boxe antique, ça existe aussi.
Le sac de frappe et de boxe, ça existe, et même plus qu'un sac de frappe. C'est un sac qui sert à travailler effectivement l'enchaînement des coups, le renforcement de la ceinture scapulaire, des épaules. C'est aussi un sac qui sert à toute une série d'autres exercices qui sont beaucoup moins en vigueur dans les salles de boxe aujourd'hui, notamment des exercices de renforcement du cou, des épaules. Autrement dit, on repoussait le sac loin de soi et on venait l'arrêter, non pas avec ses poings, mais parfois avec ses épaules, avec son buste, voire avec sa tête, pour renforcer les muscles du cou.
Dis-toi que c'est du feu. Donc, est-ce que tu voulais. Voilà, merci.
Donc effectivement, ce sont des sacs qui existent. On est assez peu documenté dessus. On a quelques rares documents iconographiques. Et puis on a des textes qui nous décrivent la manière dont ils étaient utilisés.
Ok, 1, 2. Bravo, Maria. Non, on lâche pas. Et, oh, c'est qu'une minute. Hein. Là, allez, vas-y, reste 20 secondes. Allez, vas-y, 1, 2. 1, 2, bravo, Maria. Allez. Voilà. Tourne à droite, s'il te plaît. Accélère. Allez, encore.
On a donc le boxeur avec ses gants et vous écrivez que le shadow boxing existe aussi dans l'Antiquité. Donc le shadow boxing, c'est de boxer dans le vide ou contre un pugiliste imaginaire.
Le shadow boxing existe, c'est d'abord et avant tout une forme d'entraînement, c'est aussi une forme d'échauffement, donc on s'entraîne contre soi-même. Le terme d'usage dans la langue grecque, c'est skiomakia. Skiomakia, c'est vraiment l'idée de la guerre contre sa propre ombre, donc c'est vraiment le shadow boxing. Et j'ai envie de dire, c'est même encore plus le shadow boxing qu'aujourd'hui, parce que dans la mesure où les athlètes pratiquaient la boxe en extérieur et qu'ils essayaient en règle générale de tourner le dos au soleil pour ne pas être aveuglés, et bien précisément, ils avaient, si possible, dans la mesure du possible au fil de leur entraînement, leur ombre face à eux.
Alors là, c'est une affiche l'héritage de Rocky Balboa, donc un peu toute la légende de la boxe.
Oui, c'est ça. Et c'est le cinéma Le Palace d'Épernay qui nous l'a offert. Donc c'était, c'est symbolique parce que ça parle de boxe, mais le relationnel qu'on peut avoir avec le cinéma, ben voilà, c'est vraiment sympa, quoi.
Je pense que le cinéma, ça a une grande influence sur les pratiquants lorsqu'ils sont jeunes.
David Da Silva.
Dans mon livre, je cite beaucoup de boxeurs qui disent qu'en fait, ils étaient fans de Rocky, du personnage de Rocky Balboa. Moi, c'était la même chose.
Shafik Sayari. 24 mars 1975, sur un ring, Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Qui est dans la salle?
Sylvester Stallone, qui est alors un total inconnu, amateur de boxe, et qui va avoir une révélation devant ce spectacle. On a Mohamed Ali qui est vieillissant et qui se bat contre Chuck Wepner, qu'il finira par battre au point, au 15e round. Et malgré cette défaite, Sylvester Stallone est impressionné par le courage dont a fait preuve Chuck Wepner. Et c'est la révélation à tel point que, en sortant de cette salle, il y a une idée qui lui trotte dans la tête, c'est celle de mettre sur papier cette histoire qui deviendra un an plus tard le premier épisode de la saga Rocky.
Moi, c'était en fait les films de Rocky, la saga, qui m'avaient donné envie de pratiquer la boxe. L'histoire de la boxe est très ancienne. Dès l'Antiquité grecque, on pratiquait le pugilat. Et puis ensuite, c'est apparu aux Jeux Olympiques. Et puis les Romains au 7e siècle avant notre ère, on va avoir des boxeurs dans le Colisée, etc. Ils vont être très célèbres. Puis ensuite, pendant le Moyen-Âge, il y a une petite disparition. C'est des combats à main nue, donc très très violents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Moyen-Âge, les seigneurs s'opposaient à cette pratique.
Est-ce qu'il y a le même type d'entraînement que pour la boxe anglaise au barnacle, la boxe à main nue?
Il y a des variantes qui font que le fait qu'on n'ait pas les gants et qu'on a les doigts libres, normalement on doit s'adapter à l'entraînement. Après c'est un sport qui est vieux mais jeune en même temps dans le sens où c'est un renouveau. Mais sinon non, normalement c'est classique, on s'entraîne avec gants de boxe anglaise parce que vous imaginez bien qu'on peut pas se parer à l'entraînement à main nue. Même en gants de MMA, là on a mon ami Eladj qui est professionnel en MMA à côté de moi. Tout à l'heure il a sparé avec des gants de MMA, vous regardez son visage, bon voilà. Bon, je vous rassure, ses sparring partners aussi, ils ont le visage qui est gonflé, hein. Y a pas que lui.
À peu près au XVIIe siècle, c'est un sport qui va progressivement disparaître et qui va réapparaître en Angleterre, d'où après son nom de boxe anglaise. On va se battre plutôt dans les foires. Les spectateurs vont faire des cercles, ils vont entourer les combattants, ils vont tenir une espèce de corde, ce qui sera finalement l'ancêtre du ring. Et puis il y aura les premiers champions aussi qui vont commencer à apparaître. Les nobles vont commencer à y trouver un intérêt et à pratiquer. Donc une fois que c'est passé de sport très populaire à sport pratiqué par la noblesse, il va être accepté par la société.
Le voyage s'est fait en voiture. On a été jusqu'à Manchester. La pesée se faisait 24 heures avant, comme les professionnels. Là, on est arrivé en banlieue de Manchester, à Bolton. Donc c'était dans un gym vraiment à l'ancienne, avec les punching balls qui sont un peu déchirés, la peinture qui tombe, enfin bref, voilà. Je fais la pesée, je me prête au jeu, je prends la pause, tout ça. Ensuite, le lendemain, donc, on avait rendez-vous à Manchester pour le combat. Donc c'était une salle qui s'appelait le Brawlers Exhibition, une salle qui peut accueillir à peu près 1000 personnes. Il y avait énormément de combats en préliminaire, des combats déjà avec des gants. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a des combats sans licence. Ça veut dire que vous, demain, vous pouvez arriver, vous vous inscrivez et vous faites un combat sans licence, en fait. C'était déjà ça, les premiers combats. Ensuite, vint le moment fatidique. Voilà, c'est un moment qui est assez stressant, hein. Ouais, je commençais à stresser, mais mon coach a eu les bons mots pour faire vraiment ma préparation mentale et que j'arrive et que je sois plus énervé que stressé au moment du combat. Il y a une personne qui vient me chercher, qui me dit « Ok, c'est ton tour ». Moi, c'était le deuxième combat, en fait. J'arrive, en fait, on me dit de patienter là, et il y a le premier combat qui se déroule devant moi. Le mec se prend un KO au premier round devant moi, donc pas très rassurant. Et ensuite, y a mon adversaire qui rentre avant moi, et puis c'est à mon tour de jouer.
Referee, just let them sort themselves out here. Yeah. I quite like that. Not quick to step in.
Absolutely, yeah.
He's landing a good left hook just on the inside. Pushes opponent away. Good right hand, and again there from Chima. As Damari look to close the distance. He's already beginning to show marking around the right eye as the Frenchman.
Mon adversaire, c'est un Jamaïcain de 80 kilos, mais beaucoup plus rempli que moi, plus vieux que moi. Je savais qu'il avait une défaite avant mon combat et qu'il était vraiment revanchard. Il voulait vraiment repartir avec la victoire. Il avait un bras arrière très puissant aussi. Ça, on m'a prévenu et on m'a dit de pas le prendre.
Samy, on voyait le début de votre combat. Vous n'avez qu'un protège-dents.
On sait dans quoi on s'engage quand on fait ça, donc c'est le jeu, quoi.
La première fois qu'on se prend un nion dans le visage,
ça pique parce qu'on n'est pas préparé, en fait. À l'entraînement, on peut pas se parer sans gants, c'est pas possible. Voilà. Donc en fait, quand on s'en prend un, en fait, on apprend sur le tas. Voilà. À moins que vous ayez 35 combats de rue, voilà quoi. Personnellement, c'est pas mon cas. En barnacle, on peut plus s'ouvrir que dans les autres sports, ça c'est vrai. Et plus de risque de se briser les mains. Voilà.
C'est dit d'un ton calme. Je reviens au moment où vous bandez les champions, là, vos athlètes.
Mm-hmm.
Est-ce qu'à un moment, en un regard ou sur une main un peu molle, vous dites, il est pas bien?
Ouais. Justement, c'est là, c'est ce moment-là qu'on peut voir plein de choses. Donc regarde, tu peux pas fuir. Si tu fuis, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Vas-y, explique-moi. Dis-moi, ça va aller. T'inquiète pas, je suis là. Eh ouais, dans les silences aussi. Mais ouais, les regards, c'est clair que chaque personne a sa façon de s'exprimer, mais dans le regard, tu vois plein de choses.
Et est-ce qu'il y a un moment où le garçon ou la fille qui s'assoit ici, avant les bandages, change une fois qu'il a les bandages sur les mains?
L'athlète se met dans sa bulle.
Et là, vous êtes combattant professionnel de MMA.
De MMA, je suis actuellement combattant au Cage Warrior. J'ai 6 combats pro. En fait, le MMA, c'est un mélange de sports de combat. C'est-à-dire qu'on peut mélanger tout ce qui est sport de percussion, tout ce qui est kickboxing, muay thai, taekwondo, karaté, etc. Avec tout ce qui est sport de préhension, tout ce qui est lutte, judo, avec les projections. Et on a une partie sol où on peut tenter des clés articulaires, des clés de bras, des clés de poignets, des clés de talons ou des étranglements.
Là, vous avez la lèvre supérieure enflée parce que vous rentrez d'un entraînement.
Oui, c'était le jour de sparring aujourd'hui. Et je fais un mauvais coup. Et après, c'est les risques du sport. Ça, c'est le minimum.
Samy, est-ce que, à part le barnacle, vous vous êtes mis aussi au MMA?
Oui, bien sûr. Bah, c'est comme ça que moi et Ladj, on s'est connus. Pour moi, c'est l'art ultime. Ça mélange tous les sports de combat. Et en fait, on va direct au concret.
Alors, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir souffler aussi.
Ouais.
Vas-y. 1, 2. Bras avant, bras arrière. Voilà. Voilà, on cherche. Voilà. Allez. Oui, bien. 3. Bras avant, bras arrière, bras avant.
On va commencer au XVIIIe siècle à codifier la boxe avec le marquis de Queensberry. Ils vont commencer à mettre des règles, les rounds, le temps. On va compter le boxeur une fois qu'il est au sol, etc. Donc progressivement, on va connaître toutes les règles qu'on connaît aujourd'hui dans la boxe. Et puis, il y aura un arbitre, etc. Donc ça va être très codifié. Et puis, il va avoir son surnom de noblard, étant donné que c'était un sport qui était très pratiqué par la noblesse anglaise. Progressivement, il y a des immigrés qui vont partir aux États-Unis, donc souvent irlandais, et qui vont finalement importer ce sport aux États-Unis.
Alors, les historiens ne sont pas forcément tous d'accord sur ce fait, mais il pourrait que ce soit les minorités irlandaises qui importent la boxe. Et le XVIIIe siècle, cantonné au quartier irlandais, puisque bon, à la mauvaise presse, lorsqu'elle est introduite aux États-Unis, elle va également être popularisée au sein des plantations esclavagistes. On peut évoquer l'existence de ce qu'on appelle les battles royales. Alors on a quelques témoignages d'anciens esclaves qui évoquent cette pratique qui consistait à mettre sur un ring plusieurs combattants noirs à qui on bandait les yeux jusqu'à que le dernier boxeur combattant reste debout. Et alors les boxeurs, forcément c'est des boxeurs noirs qui sont contraints de forcer pour leur maître. Donc la boxe devient une occupation au même titre que les combats de coq à cette époque. Cette pratique du battle royal va se poursuivre jusqu'aux années 1940. Avec un exemple éloquent, c'est celui de James Brown, le chanteur de James Brown, qui déclare avoir lui-même participé à ces battles royales lorsqu'il était adolescent pour survivre, tout simplement. Et il raconte qu'on le mettait aux prises avec 3-4 autres adolescents noirs. Seul le vainqueur remportait une somme d'argent.
Ça s'appelle comment ça?
Ça c'est Pat d'ours.
Pat d'ours, c'est l'entraîneur qui les enfile.
Voilà.
Et ça sert à quoi?
Ça sert simplement au niveau technique à mettre en place des combinaisons, des impacts bien précis. L'apprentissage permettra au fil du temps de faire croire que c'est inné, alors que ça ne le sera pas. Donc bras avant, direct bras avant, crochet bras avant. 1, 2, ouais.
Au 19e siècle, va être instaurée une barrière de couleur, la color line, pour que les boxeurs noirs ne puissent jamais accéder au titre suprême. Et surtout, la boxe devient le fief de la virilité. Le champion du monde de boxe symbolise l'homme le plus fort du monde. Et donc, il faut que ça soit un blanc. À la fin du 19e siècle, le premier véritable champion du monde de boxe moderne va déclarer qu'il ne rencontrera jamais un nègre.
1865, abolissant l'esclavage, exode rural, professionnalisation en naissant du sport. Mais la boxe, là, gagne la communauté noire. Donc, c'était pas une boxe avec des gants dans les plantations.
Non. Et d'ailleurs, la boxe avec les gants, bah, il faudra attendre la seconde moitié du 19e siècle avec l'instauration des règles marquées de Queensberry. Tom Molino, on peut considérer que c'est le premier boxeur noir connu et qui se fera un nom dans l'histoire de la boxe. Alors, Tom Molino serait né, enfin, il y a pas mal de mystères qui planent sur son existence, serait né en 1784 dans une plantation de Virginie. Alors, selon les diverses versions qui ont eu cours, son maître aurait employé un marin pour lui inculquer les rudiments de la boxe à la force du fouet. Une autre version nous dit que son père était déjà un combattant émérite et que il a forgé les aptitudes de Molino. Molino se serait illustré par ses aptitudes de combattant jusqu'au jour où son maître lui promet qu'en cas de victoire, il sera affranchi. Tom Molino va traverser l'océan Atlantique pour rejoindre l'Angleterre où très vite il se fera un nom puisque quelques mois après son arrivée, des journaux britanniques font mention de la supériorité qu'il a démontrée face à des combattants locaux. Tom Molino, fort de ses exploits, se proclame champion d'Angleterre. Ça va susciter des réactions très violentes qui feront sortir l'ancien champion d'Angleterre, Tom Cribb, missionné pour restaurer le prestige racial et national, puisque Tom Molino est perçu comme noir et américain. Une première rencontre a lieu en 1810. Les témoins, et notamment un historien, le premier historien de la boxe, Pierce Egan, va évoquer plusieurs tricheries de la part de Cribb, notamment des morsures, le fait que Tom Cribb ait tiré les cheveux à son adversaire, qu'il l'ait accusé d'avoir mis du plomb dans ses mains pour justement suspendre le combat et reprendre ses esprits. Et au terme de la 39e reprise, Tom Molino est défait.
Nicolas Sesler, ouais. Sur le ring, souvent il y a d'un côté la victoire, de l'autre la défaite. Vous, vous supportez la victoire ou la défaite?
Moi j'ai une prédisposition à aimer la défaite, ne serait-ce que pour mon palmarès qui est de l'ordre d'une défaite en autant de combats, donc 100% de défaite, mais aussi parce que la défaite, elle est plus riche en fait, parce que c'est justement dans la défaite que vous vivez votre moment de vérité, quoi. D'ailleurs, c'est une des choses qui attire les écrivains, c'est ce rapport à la défaite et à l'échec. Comment est-ce que vous prenez dignement la défaite, comment est-ce que vous faites face dignement à un échec assez qui peut être assez terrible, hein, même physiquement et psychologiquement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs familles d'écrivains en fait qui écrivent sur la boxe, et je me suis fait la réflexion que ceux qui avaient d'abord été boxeurs dans la lignée de Jim Tully dans les années 20 et 30, après il y a Leonard Gardner qui a écrit Fat City, qui a donné lieu à ce film extraordinaire de John Huston, ou encore Frédéric Roux en France, qui a aussi été boxeur à Bayonne pendant de nombreuses années. FX Tool également, ce sont des gens qui ont vraiment fréquenté le ring avant de se mettre à écrire, et qui tous s'intéressent non pas à la boxe des grands casinos de Las Vegas, mais plutôt à une boxe des bas-fonds, à une boxe des coups un peu trop larges, à une boxe où le courage prime sur la performance et où finalement les boxeurs sont des gens qui disputent un combat qui est perdu d'avance parce qu'ils n'ont pas le talent qui leur permettra de devenir champion du monde, mais ils boxent quand même. Et ça, cette espèce d'idée fixe, ouais, c'est une folie, mais c'est aussi ce qui leur donne leur dignité. Comme si la dignité, elle était dans cette petite lueur d'espoir qui leur réchauffe le cœur. Et moi, j'aime bien ça. Donc je préfère la boxe un peu des bas-fonds à celle des mecs qui ont des palmarès sans défaite et qui exhibent leurs dollars. Ouais.
J'ai posé la question au boxeur que j'ai rencontré. La boxe, c'est, on va dire, de l'agressivité sur commande. Comment est-ce qu'on arrive à faire sortir cette agressivité? Et parfois, il y a des boxeurs qui n'en ont pas assez. Comment on travaille ça?
On travaille sur soi-même pour le mettre sur commande. Alors, je te demande d'aller le plus vite possible sans chercher à frapper fort. Allez, enchaîne, en crochet. Allez, vas-y. Allez, 1, 2, 3, 1. Laisse coordonner. 2, 1. Ah, tu lâches? Non. T'as pas le droit. Allez.
Jack Johnson partage avec Tom Molineaux une attitude,
Shafik Sayari
poussera encore plus loin, à savoir le refus de se soumettre au comportement qui est attendu de la part d'un noir. Jack Johnson, né dans le Texas, quelques années après l'abolition de l'esclavage, et très vite, en raison d'un physique imposant, bah, il va se lancer dans la boxe et il va migrer dans le Nord. Où dans le Nord, bah, pensant trouver des perspectives d'avenir, il devra se contenter de ces fameux battles royales. Il va revenir ensuite au Texas. Il va mener quelques combats, mais la législation au Texas va progressivement évoluer puisque les combats de boxe seront désormais interdits. Il va traverser un petit peu les États-Unis pour se retrouver sur la côte ouest et commencer à mener ses premiers combats. Il accumule les victoires, mais très vite, il est confronté à la color line, à savoir l'impossibilité pour tout combattant noir dans la catégorie poids lourd de conquérir pour le titre de champion du monde. Il va se contenter donc du championnat du monde des hommes de couleur. Il va poursuivre ses boxeurs blancs toute son énergie, traverser l'océan, rejoindre en France un boxeur blanc, alors champion du monde, Tommy Burns. Burns refuse, comme ses prédécesseurs, d'ouvrir la porte à un boxeur noir pour le titre suprême. Jack Johnson va le suivre en France et va finir par le suivre jusqu'en Australie. Burns, pour ne pas passer pour un lâche, va poser une condition qu'il pensait impossible à remplir, à savoir qu'il combattra Jack Johnson pour la somme de 30 000 dollars, ce qui est une fortune à l'époque. Et il se trouve qu'un promoteur va poser ses 30 000 dollars sur une table. Tommy Burns est acculé, il va devoir combattre. C'est le combat qui se tient à Sydney, 1908.
Round 12 was all Jack Johnson. In round 13, it appeared as though the police were going to step in and stop the fight as a result of Burns' weakened condition and the terrible beating he was taking.
Tommy Burns est malmené sur le ring à tel point, puisque le combat est filmé, que la police intervient pour entrer au combat et pour couper les caméras.
Absolutely defenseless. Just seconds before the police stopped the motion picture cameras and entered the ring to halt this very one-sided fight. Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world, December 26, 1908.
Ce combat va vite trouver un écho aux États-Unis et la presse commence à s'alarmer. Un poète australien évoque cette défaite et s'adressant à ses compatriotes leur déclare qu'il s'agit d'un mauvais présage et que cette défaite de l'homme blanc face à l'homme noir pourrait signer le déclin de la race blanche. C'est la panique aux États-Unis et on en appelle au retour de l'ancien champion, en l'occurrence un champion américain, Jim Jeffries.
Champion Jack Johnson versus challenger James J. Jeffries. One of the great events in sports history is just 24 hours away.
Est-ce que Jack London rêvait d'être Jim Jeffries en face de Jack Johnson en 1910, le 4 juillet à Reno, Nevada?
Alors, il en rêvait sans doute avant le combat.
Tomorrow, heavyweight champion Jack Johnson will defend his crown against the man who is already a legend in his time,
Former heavyweight champion James J. Jeffries.
Quand il a assisté au combat au pied du ring,
Nicolas Sesler,
je pense qu'il a vite déchanté. Ce qui est sûr, c'est que Jack London, ça fait partie de ces écrivains qui ont quasiment boxé tout au long de leur vie. Pour ce qui concerne ce combat entre Jack Johnson et Jim Jeffries, ce qui est intéressant, c'est de voir, et ça c'est parfois le cas dans ces couples de boxeurs et d'écrivains, c'est que là, c'est l'écrivain qui va jeter son boxeur sur le ring. C'est-à-dire que à l'époque, Jack Johnson est le champion du monde des poids lourds. C'est le premier noir à être devenu champion du monde des poids lourds, c'est-à-dire le titre officieux d'homme le plus fort du monde, ce qui a jeté à bas le mythe de la présumée suprématie de l'homme blanc, donc tremblement de terre. Et les Américains blancs cherchent un champion blanc qui soit capable de remettre l'église au milieu du village et de reprendre le titre à Jack Johnson. Il se trouve que Jim Jeffries est le dernier grand champion américain, mais qu'il a raccroché les gants depuis quelques années. Il vit dans une ferme près de Los Angeles avec ses lapins, ses poules, ses vaches, tranquille. Et il a absolument aucune intention d'y retourner. Jack London ne l'entend pas de cette oreille et il organise une campagne de communication vraiment extrêmement agressive au cours de laquelle il crée la notion de grand espoir blanc et il insiste vraiment sur la responsabilité presque historique de Jim Jeffries à remonter sur le ring et récupérer son titre. Il y a vraiment des titres de presse incroyables. On voit une petite fillette blanche avec ses tresses qui supplie Jim Jeffries de remonter sur le ring pour mettre fin au règne de Jack Johnson. Bref, il finit par accepter, il s'entraîne, il fait un camp d'entraînement, il remonte sur le ring et là, c'est vraiment la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que Jack Johnson, qui est l'un des plus grands poids lourds de tous les temps, n'oublions pas, se rit de lui et Johnson, c'est vraiment le premier poids lourd qui fait de la provocation et du trash talking une arme sur le ring. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de battre les champions blancs, mais il les humilie avec son verbe. C'est une sorte de précurseur de Mohamed Ali. Sauf qu'il ne lutte que pour sa cause, que pour sa pomme. Et là, sur le ring de Reno, Nevada, il fait durer le plaisir, il défigure Jim Jeffries et il en profite pour narguer Jack London qui est au pied du ring en lui disant que son Jeffries, décidément, n'est pas un foudre de guerre.
Jack Johnson met en scène ses combats, en fait, sachant qu'ils sont filmés. Et ces films sont autant d'humiliations, autant de coups portés au système suprématiste blanc. À tel point qu'en 1912, une loi est votée, avec le soutien de Theodore Roosevelt, pour interdire la circulation des films de boxe. Cette législation date de 1912, mais des mesures avaient été prises à l'étranger, en Angleterre, par le biais de Winston Churchill, alors ministre des colonies, qui a interdit la diffusion de ces films, des victoires de Jack Johnson en Inde, par exemple, par crainte que les populations colonisées ne s'identifient aux boxeurs noirs et qu'ainsi ils remettent en cause un petit peu la suprématie de l'homme blanc.
Le point. Direct du gauche, direct du droit, crochet droit, uppercut gauche, uppercut droit, coup de coude, gauche droite, coup de coude descendre. Coup de montant, coup de genou, coup de pied dans les jambes, coup de pied dans le ventre et coup de pied dans la nuque. Ben oui, la tête c'est dur. C'est plus qu'on sait que taper dans la nuque parce que c'est mou. Et les artères, les veines et c'est le chaos également et sans qu'on se blesse au tibia ou au pied. Nous sommes à Montmartre, dans le 18e, rue Lamarque, une rue dans laquelle je suis né. Jean-Charles Skarbowski, passionné de Muay Thai depuis mes 15 ans, là j'ai 47 ans. J'ai été classé numéro 1 dans le Muay Thai en Thaïlande. Je suis rentré sur Paris après 7 ans là-bas et j'ai ouvert deux camps de Muay Thai, deux camps de boxe, une dizaine de légendes, grands champions qui donnent des cours. Maître Kong Sak habite depuis 30 ans en France. Avant de venir ici, il était champion de Thaïlande, invaincu. Il est arrivé en France, une carrière qui a duré 20 ans. Il a boxé tout le monde, avec des fois des 10 kilos d'écart, il est invaincu. la plus grande star thaï en Europe.
Comment sont les élèves?
Les élèves, ils sont très motivés, ils sont transpirés, ils sont bien. La boxe, c'est bien pour les gens qui sont nerveux, tapent tout dans le sac. Après, vous voyez, comme ça, ils crient, et... c'est tout enlevé. Les...
C'est l'énergie négative.
Voilà.
La boxe thaï, c'est un sport plusieurs fois centenaire en Thaïlande. On peut gagner soit par KO, hein, ou bien on peut gagner au point. Il y a un système de pointage issu plus ou moins de la boxe anglaise.
Est-ce qu'il y a des rituels avant de monter sur le ring, par exemple?
Oui, il y a des rituels, bien sûr. Le bouddhisme s'est marié là-bas en Thaïlande avec l'hindouisme. C'est-à-dire qu'il croit aux esprits, il croit aux amulettes, aux statues porte-bonheur. Donc il y a une partie de rituel avec une petite danse sacrée qui est faite sur le ring. Ah, c'est le salut envers le professeur, envers l'adversaire, envers le public.
Est-ce qu'à la salle, il y a des filles?
Bien sûr.
Christine, votre rencontre, vous, avec la boxe?
Quand j'étais ado, en fait, j'ai commencé parce que j'avais ma famille qui recueillait des réfugiés. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la boxe thaï.
Donc vous mettez les gants là contre des mecs?
Moi, ouais, pas de problème. Je suis très bon en coude et en genou. Ça compense.
Qu'est-ce qui fait un bon entraîneur?
Bah, je sais pas.
ça veut dire quoi être un homme de coin après avoir été au milieu du ring?
C'est être près de l'athlète. C'est être bienveillant, c'est être à ses côtés dans les bons et dans les mauvais moments. C'est vivre les choses intérieurement. Voilà. Et être là pour, on va dire, emmener la personne où elle veut aller. Et puis, à côté de ça, faire attention à son intégrité physique et mentale. Alors, vas-y, passe latéralement, latéral. Non, passe le coup. 1, 2, on passe en dessous, passe en dessous, 2, voilà, passe en dessous, et là, 1, 2, 3.
Le tableau, c'est tous les licenciés du club?
Pratiquement, ouais.
Il y a combien à peu près?
Moi, Gigi, combien on est?
À l'heure actuelle, on est 137.
Des coupes partout.
Donc c'est pas un petit club de province, ici?
Bah si.
C'est un petit club de province qui cogne fort?
Non, qui bouge.
C'est toute une histoire, parce qu'au départ, le premier club a été fondé en 36 et l'autre, le deuxième, en 48. Et les deux clubs ont fusionné en 52 pour faire le Boxing Club d'Épernay.
Je trouve que ces gens du petit club d'Épernay, qui est animé par Jérôme Villema, bon, ces gens sont en général des ouvriers de cave.
Daniel Rondeau.
Des gens qui n'ont pas de ressources extraordinaires. Et je trouve qu'ils se sont fixés un but dans la vie et qu'ils vont tout donner pour ce but et qu'ils arrivent à leur fin. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une sorte d'idéal, un idéal sportif, et ils vont sacrifier une partie de leur jeunesse pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Et Jérôme Villema, le coach, va les conseiller avec une sorte de sagesse et de douceur absolument extraordinaire pour leur éviter les faux pas, pour leur éviter les pièges et pour les emmener le plus loin possible dans leur art, puisqu'il s'agit de boxe, la boxe est le noble art.
Là, je mets un direct, d'accord? Ton objectif, c'est de ne pas le prendre. Donc, tu vas désaxer la tête. Voilà, du bon côté, très bien. En faisant ça, en même temps, tu as amené ton épaule avant, mais c'est surtout que tu as armé l'épaule arrière. Et là, tu reviens avec un crochet.
Nicolas Sesler, Un autre homme de lettres, un autre poète, un chanteur, Bob Dylan, se mêle de la vie d'un boxeur qui, lui, est incarcéré. Ça se passe en 1974, et d'un côté des barreaux, c'est Rubin Hurricane Carter, et de l'autre côté, c'est Bob Dylan.
Ouais, alors c'est une rencontre vraiment étonnante. Rubin Hurricane Carter, c'est un ancien champion des poids moyens de mémoire, qui est incarcéré depuis des années pour un meurtre qu'apparemment il n'a pas commis. En tout cas, il clame son innocence depuis son procès. Il dit que c'est un procès, c'est une décision raciste en fait. Il cherchait un noir, il était le mauvais noir au mauvais moment. Donc il a vraiment tout tenté en termes de solution judiciaire, Rubin Hurricane Carter. Et sa dernière bouteille à la mer, c'est une autobiographie qu'il écrit derrière les barreaux et qu'il envoie un certain nombre de personnalités, dont Bob Dylan, qui a été boxeur amateur quand il était jeune. Et Bob Dylan tombe sur cette autobiographie, il la lit, il la dévore, et quelques semaines plus tard, il est derrière les barreaux, il rencontre Rubin Hurricane Carter. C'est un coup de foudre, ils se comprennent, il y a quelque chose qui se passe entre les deux, et il organise un espèce d'énorme concert pour, disons, remettre sur le devant de la scène le procès Carter, l'affaire Carter, et faire en sorte que cette affaire soit réouverte et réexaminée. Mohamed Ali et de la fête, notamment. En fait, dans un premier temps, ça marche pas. Carter est à nouveau condamné, mais quelques années plus tard, l'affaire sera réouverte une nouvelle fois et il finira par être gracié. Mais il écrit surtout une chanson qui s'appelle Hurricane, qui est magnifique, qui dure 7 minutes, où il re-raconte toute l'histoire de Hurricane Carter, presque en la décryptant et en l'analysant. Évidemment, c'est une vision très pro-Carter, mais finalement, c'est celle qui a prévalu, vu qu'il a fini par être reconnu innocent.
Dans votre livre, donc, La boxe à Hollywood, David Da Silva, vous avez donc analysé ce genre cinématographique qui épouse la boxe, les combats. Quelle trame avez-vous trouvé jusqu'à nos jours, entre justement ce Requiem pour un champion, 1962, jusqu'à aujourd'hui? D'abord du noir et blanc, le public qui prend de plus en plus de place dans le champ, les entraîneurs. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé comme figure répétée dans ces films que vous avez étudiés?
C'est vrai que le boxeur au cinéma, en général, il va représenter quelque chose. Il va représenter un combat. Combattre sur le ring, c'est aussi un combat qui représente sa lutte dans la société. J'ai décrit trois types de héros. Donc il y a le héros social, c'est-à-dire le pauvre qui, grâce à la boxe, il va accéder au rêve américain et d'une certaine manière, il va représenter le succès de sa communauté d'origine. Le héros social le plus célèbre, c'est Rocky Balboa. Il y a une autre dimension qui va être un peu plus politique, qui va être le héros démocratique, c'est-à-dire qu'un héros, il va se battre pour une lutte politique, être reconnu dans la société, alors que c'est une catégorie de personnes qui va être méprisée. Le héros démocratique, ça peut être l'insurgé, le film L'Insurgé, justement sur Jack Johnson, qui montre comment un Afro-Américain se bat pour montrer que les Afro-Américains ne sont pas des citoyens de seconde catégorie aux États-Unis. Après, il y a d'autres films. Il y a Hurricane Carter aussi qui montrait ça avec Denzel Washington. Les films sur la boxe féminine, c'est aussi le sous-texte qu'on peut voir. C'est que les femmes, en se battant, en essayant d'accéder à pouvoir boxer sur le ring et être acceptées par la société, bah, d'une certaine manière, ça permet aux femmes de montrer que, d'une certaine manière, elles sont égales aux hommes. Et puis, il y a ce que j'ai analysé aussi, le héros national, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le boxeur, il va représenter non plus sa communauté au niveau des minorités, etc., mais plutôt le pays. C'est-à-dire qu'il va se battre avec les couleurs de son pays. Alors le film le plus emblématique de ça, c'est Rocky IV. C'est-à-dire qu'il se bat avec le short des États-Unis et à la fin, il a le drapeau américain. C'est-à-dire qu'il a gagné et en gagnant, il a gagné en mettant en avant les valeurs américaines, de la société américaine. Moi, c'est vraiment ce que j'ai analysé dans les films de boxe, c'est que le boxeur, il représente un combat. Il se bat sur le ring, mais il se bat aussi pour faire gagner certaines valeurs.
Je prends des leçons auprès d'eux. Si vous voulez, ils me stimulent.
Daniel Rondeau.
Quand je vois les efforts qu'ils font, je suis plus courageux le matin quand j'allume mon ordinateur et je me dis, maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, je suis toujours bouleversé par un beau combat de boxe. Je suis rentré petit à petit par la plus petite des portes, mais sous la houlette d'un coach merveilleux, il m'a fait rentrer dans cet univers de la boxe qui est aussi une fraternité. Toutes les qualités qu'ils vont mobiliser pour être simplement un bon boxeur. Ces qualités qui sont le courage, l'endurance, l'humilité sont des qualités que tous les Français devraient avoir et les écrivains en premier lieu.
Le combat du siècle, c'est un titre qui revient beaucoup dans la presse quand on s'intéresse à la boxe. Il y a eu beaucoup de combats du siècle, mais celui qui a défrayé la chronique, c'est celui de 1974 à Kinshasa entre Mohamed Ali et George Foreman. Qui est au pied du ring ce jour-là?
Eh bien, entre autres, Norman Mailer. Et c'est une histoire vraiment intéressante parce que là, pour le coup, il y a un vrai couple entre Norman Mailer et Mohamed Ali. Déjà, ils se ressemblent. C'est-à-dire qu'en 1974, ils considèrent tous deux qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent tous les deux prouver qu'ils sont les champions de leur catégorie. Mohamed Ali, en récupérant son titre en battant George Foreman, alors qu'il est donné perdant chez la majorité des observateurs, et Norman Mailer en continuant à aligner les best-sellers. C'est marrant parce que ce sont deux hommes qui ont l'ego complètement hors de contrôle, complètement surdimensionné. Mailer notamment, on lui propose $1 million pour couvrir le combat entre Ali et Foreman à Kinshasa, et vraiment quand il arrive au Zaïre, il est dans un état de cheville enflée assez étonnant. D'ailleurs, ça se ressent dans le livre qu'il écrira, The Fight, le combat du siècle, où il passe constamment du jeu à l'auteur, à Norman Mailer, ou Norman, ce qui est assez insupportable d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui est justement extrêmement agréable et jouissif, c'est que petit à petit, on sent un certain dépit sous sa plume, à côtoyer peut-être plus grand que lui. Et ce plus grand que lui, c'est Mohamed Ali, bien sûr. Parce qu'il rentre dans ce projet littéraire et journalistique comme on rentre dans un combat de boxe, en voulant se mesurer au champion. Ce qui le conduit d'ailleurs à vivre des scènes presque ridicules, hein, où par exemple, un matin à l'aube, il décide de suivre Ali dans son footing matinal. Et évidemment, il s'écroule au bord de la route au bout de 10 minutes. Et il voit Ali disparaître dans l'aube zaïroise. Mais petit à petit, il va céder à une sorte de fascination presque érotique, en fait, pour Mohamed Ali. Sa présence presque magnétique, son visage pour son corps, pour sa boxe, son verbe. Et ça, voir Ali écraser l'ego surdimensionné de Norman Mailer, moi, je trouve ça assez jouissif.
La douce science des coups est quelque chose d'assez magnifique parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses à apprendre et qu'il dépasse même le carré de 6 mètres sur 6 mètres qui est le ring. Il faut que le boxeur il ait une certaine idée de lui-même et des autres quand il rentre sur le ring.
Il y a un moment donné où il faut pousser et, parce que sinon le résultat risque de ne pas être là. Et puis d'autres moments où qu'est-ce qui est prioritaire? Quand la santé est engagée, savoir arrêter un combat parce qu'il devient déséquilibré et que derrière il y a quoi? Des séquelles? Est-ce qu'on est prêt à les supporter toute sa vie? En tant qu'athlète, oui, on signe, on a envie. Mais en tant que coach, c'est pas les mêmes rapports, les mêmes devoirs, les mêmes obligations.
Jérôme Villemain, il est né à Château-Thierry. C'est la ville natale de Jean de La Fontaine. Et je lui ai dit, tout ça, c'est pas un hasard. Quelle est la force de La Fontaine dans ses fables? C'est qu'il est capable de rentrer dans le cœur des gens sans les blesser. Vous voyez, pour leur dire, fais ci, fais pas ça. Il peut leur dire ça sans les blesser. parce qu'il a trouvé cette forme un peu idéale. Jérôme Villemain, il rentre dans le cœur de ses boxeurs sans les blesser. Jamais.
Quand c'est toi qui t'engages, c'est toi, c'est l'homme. Quand c'est pour quelqu'un, je préfère arrêter trop tôt que trop tard.
Est-ce que vous vous souvenez, une des premières fois où vous avez jeté l'éponge pour un de vos boxeurs?
Je me rappelle la dernière, il n'y a pas tellement de temps. Je l'ai fait parce que mon boxeur avait l'œil fermé et qu'on était au dernier round, il ne restait plus grand-chose, sauf qu'il s'est fait piquer au foie et que derrière, il restait encore plus d'une minute trente. Et c'est là où on risque d'avoir des soucis de santé, quoi. L'œil était complètement fermé en peu de temps. Donc après, qu'est-ce que je vais amener? Donc j'ai préféré jeter l'éponge. Il m'en a pas voulu. Et l'arbitre central a très bien compris, il m'a dit très bien. Voilà, je préfère.
C'est pas un copain. Il met une petite distance, une sorte de distance invisible entre lui et ses boxeurs. Ses boxeurs qu'il aime naturellement de tout son cœur. Mais il garde toujours cette distance, cette petite distance qu'il établit entre eux et lui, c'est la distance du respect.
Allez, là, un, deux, coup circulaire de bas en haut. Voilà, l'uppercut. Arme très dangereuse, aussi bien à donner qu'à recevoir. À recevoir, parce qu'en fait, ça peut être dévastateur, et à donner, parce qu'en la donnant, on crée une ouverture qui peut être profitable pour l'adversaire. D'accord ? Alors, un, deux, crochet. Trois. Un, deux, non, on roule de bas en haut. Voilà. Allez, allez. Un, deux, voilà. Un, deux, oh, oui. Tchou. Un, deux, la main. Tchou. Deux. Ah. Allez, non, tourne la main, tourne l'uppercut. Oui, oui, c'est ça, voilà. Allez. Enchaîne-les maintenant.
Boxe aux origines du noble art, avec Jérôme Villemain, coach au Boxing Club d'Épernay, et aussi les auteurs Daniel Rondeau, Jean-Emmanuel Rubineau, David Da Silva, Nicolas Cesler, Shafik Sayari, et aussi Samy, pratiquant de barnacle, et El Hadj, champion de MMA. Et enfin, Jean-Charles Skarbowski, champion de boxe thaï. La série documentaire, documentation musicale Virginie Gresset et Yorgi Daskalov. Prise de son Manu Couturier, mixage Julien Douminc, réalisation Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pomared.
Ah, Xia, Xia, non, non, non. Récupère.
Célibataire sans en avoir fait le choix,
Sonia Kornlund,
Adila Benedjaizou a décidé d'enquêter sur les raisons de cet état en remontant le fil de ses ex.
Ça fait 17 ans que tu es seule. En même temps, tu ne fais pas femme aigrie, tu fais équilibré, tu te démerdes plutôt bien.
Exologie, c'est la science qui s'occupe des ex.
Exologie, une vie de célibataire, un podcast d'Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Gross et proposé par Les Pieds sur Terre, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.